François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Les médias se font l'écho d'une polémique concernant la mode musulmane en France. Une mode d'habits amples, longs, couvrant l'intégralité du corps. Des marques de prêt-à-porter s'adressent désormais à celles dont la religion impose ou suggère un code vestimentaire particulier. Un choix de vêtements baptisé pudique pour permettre aux femmes musulmanes de trouver, si je puis dire, chaussures à leurs pieds. Alors certaines affirment que le droit de disposer librement de son corps et de ce qu'il habille s'applique à toutes les femmes, quelle que soit leur confession. D'autres voient dans cette tendance un nouveau signe d'enfermement et de ségrégation entre les sexes. Mode islamique, pourquoi le sujet fait-il débat en France? On va en parler avec nos deux invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Esther Benbassa est sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne, directrice d'études à l'école pratique des hautes études. Et les éditions CNRS publient sous votre direction et celle de Jean-Christophe Fatias, juif et musulman. Retissons les liens. Bonsoir à vous, Esther Benbassa.
Bonsoir.
Martine Storti est présidente de Féminisme et Géopolitique. Dernier ouvrage paru, Sortir du manichéisme des roses et du chocolat. C'est aux éditions Michel de Maulle. C'est sorti en mars 2016. Bonsoir à vous, Martine Storti.
Bonsoir.
Alors, mode islamique, mode musulmane, est-ce que le terme, on peut commencer comme ça, est approprié à la question qu'on se pose aujourd'hui, Esther Benbassa?
Enfin, je ne crois pas, non. Il n'y a pas une mode islamique. Parce que cette mode du vêtement pudique, c'est une traduction de l'anglais, n'est-ce pas, modest fashion, est un habillement qui intéresse aussi les personnes religieuses juives qui portent le même accoutrement. C'est pas seulement la mode islamique. La mode islamique, le mot islamique met déjà l'accent sur quelque chose qui n'est pas approprié à l'habillement. Et en plus, franchement, tant de polémiques pour ces marques qui se font de l'argent, ces marques ne le font pas par idéologie. Franchement, ces marques n'ont pas d'idéologie. C'est l'argent, il y a du bénéfice à faire. D'ailleurs, c'est Dolce & Gabbana, une maison de luxe qui avait commencé la première à faire des vêtements de ce genre, mais probablement pour les personnes habitant les Émirats ou l'Iran, enfin pour les personnes qui ont les moyens d'acheter ces vêtements. Mais là, on est dans la marque de grande diffusion. Donc, vous voyez, centrer une polémique sur cette question, lorsque on a tant de précaires, de chômeurs, que la loi travail est discutée partout. Il y a des manifestations, c'est vraiment une sorte de divertissement au sens pascalien et pour changer d'angle et noyer le poisson dans cette polémique qui me semble absolument non appropriée.
Alors,
aujourd'hui.
Martine Storti, vous serez peut-être d'accord sur ce premier point. Vous aviez dit que c'était une trouvaille géniale de communicants.
Alors,
vous persistez, vous signez.
Je persiste. Je signe. Génial, c'était ironique.
Bien sûr.
Sur la question du marché, la loi du marché, je suis entièrement d'accord. En effet, on voit bien que qu'on l'appelle comme on veut, capitalisme, marché, néolibéralisme, là où on peut se faire de l'argent, on se fait de l'argent, et la seule idéologie, c'est l'idéologie du profit et du fric et du marché. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai rappelé dans l'article que je faisais dans Libération avant-hier, que c'est assez drôle, rétrospectivement, de se souvenir que des opposants à la loi contre le... Des opposants à la loi qui interdit le voile à l'école nous disaient, par exemple, comme Alain Badiou, en 2004, donc il y a déjà plus de 10 ans, que cette loi était une loi capitaliste parce qu'elle ordonnait que les femmes découvrent leur corps. Or, en fait, le capitalisme, il s'en fiche. Il peut couvrir les corps, découvrir les corps, montrer les fesses, cacher les fesses. Le problème, il est pas là. Moi, mode islamique ou pas mode islamique, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est que depuis quelques années, depuis presque un quart de siècle maintenant, depuis 89, il y a un débat sur la scène française concernant le voile. Et il y a des femmes qui peut-être le portent librement, je n'en disconviens pas. Et il y a des femmes qui sont obligées de le porter. que ça soit ici, chez nous, en France, ou que ça soit dans d'autres pays. Mais pour rester en France, il y a des femmes qui sont obligées de le porter. Et moi, je me situe du côté de celles qui sont obligées de le porter. Celles qui le portent librement, après tout, qu'elles le fassent. Mais celles qui sont obligées de le porter. Donc ça, c'est vraiment la première réflexion. La deuxième réflexion, et je suis aux côtés, enfin il me semble qu'il faut être aux côtés de ces femmes qui n'ont pas le choix, justement. Et la deuxième remarque que je voudrais faire d'emblée, c'est que il faut quand même se demander qu'est-ce que ça veut dire, le voile ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ou est-ce que ça veut rien dire ? Est-ce que c'est juste un morceau de tissu ou est-ce que ça signifie en effet quelque chose par rapport à la liberté des femmes, à la liberté surtout ? C'est moins un enjeu d'égalité qu'un enjeu de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire de devoir se couvrir les cheveux ou de devoir se couvrir tout le corps ?
Et à cette question,
donc il faut répondre quand même à
alors
ça.
Alors on va essayer de répondre à cette question parce qu'elle est au fond effectivement du problème. Sur le premier point, on est d'accord, on a affaire à un phénomène commercial, un marché existe, des commerçants s'en emparent, la polémique sert surtout finalement à leur communication, à leur publicité.
Mais à la banalisation aussi quand même, ça banalise.
Alors, je reviens sur un des points que vous avez évoqué, Esther Benbassa. Les femmes qui portent des jupes courtes, des vêtements sexy, imposés, dites-vous, par la mode, souvent créée par les hommes, sont pas non plus spécialement émancipées. C'est ce que vous dites dans la Tribune de Libération que vous avez signée il y a quelques jours.
Le titre de la Tribune de Libération n'est pas de moi. Deuxièmement, lorsque je parle de la mini-jupe, je ne compare pas la mini-jupe au voile. Je veux seulement dire que parler d'émancipation lorsqu'on parle du voile est quand même assez problématique. Parce que nous aussi, on est sous dictat. Les femmes qui ne portent pas le voile, les femmes émancipées, nous voulons être minces, blondes, on fait des opérations chirurgicales pour rester jeunes, pour ressembler au modèle qu'on nous impose. Regardez les télévisions, on a des blondes filiformes, avec un habillement correct, mais sexy. Glamour. Bon, écoutez, ce qui m'agace, c'est c'est une réponse à la ministre qui disait lorsqu'on avait des droits, et la jupe se raccourcissait. Enfin, je vais dire que l'époque des droits des femmes, où on peut avoir un compte en banque, enfin, un chéquier, etc., c'est aussi la mode courage de la mini-jupe. Ne confondons pas tout. Et moi, je ne me place absolument pas du côté du voile. Je suis historienne, je connais aussi un peu comment se déroulent des campagnes anti. D'accord ? Dans les années 30, la polémique tournait autour du caftan des juifs orthodoxes qui portaient un costume spécial, leurs papillotes, leur chapeau, le fameux Steinmel, etc. Ça a quand même été au cœur des débats antisémites. Aujourd'hui, je me mets du côté pas des femmes voilées de l'Iran ou des pays du Golfe où elles sont obligées de porter le voile, je ne défends pas non plus ces femmes qui sont obligées par leur mari à porter le voile, ou par les salafistes, ou sous le contrôle social où elles sont obligées de le porter. Moi, je me place du côté des femmes qui portent le voile par choix. Ah oui. Je vais vous lire quelques lignes seulement. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de lettres. Voilà une, je donnerai pas son nom, mais vous pourrez voir son nom si vous le voulez. Elle dit « Je suis une citoyenne française pleine d'amour pour mon pays, libre et portant le foulard par choix spirituel. Mon arrière-grand-mère était brésilienne métisse, sa mère était noire, ni moi ni mes grands-pères, mes grands-mères n'avons jamais été des négresses, etc. » Une autre qui dit « Je suis française de confession musulmane. Je porte le voile par choix depuis l'âge de 35 ans. Je n'en ai même pas discuté avec mon mari. J'ai eu envie et je l'ai fait. » Bon. Donc, moi, je me place du côté de ces femmes parce que j'ai peur de cet acharnement qui est en route aujourd'hui contre les musulmans. Et dans cette situation de xénophobie montante, je ne peux qu'être du côté des femmes qui choisissent par, disons, un devoir religieux, un choix religieux de porter le voile. D'ailleurs, je venais ici, j'ai vu des jeunes filles avec un petit voile et un jean slim. Une autre était en mini-jupe avec un voile très mode, ouais. Enfin couleur mode. Bon, écoutez, ne mettons pas tout le monde dans le même panier, non, arrêtons l'acharnement.
Mais voilà. C'est très compliqué, Martine Storti, parce qu'on discute des mini-jupes, des vêtements sexy. Est-ce que vous êtes d'accord pour admettre qu'on est là aussi dans une forme de contrainte sociale pour les femmes occidentales ?
Mais écoutez, on peut pas mettre des signes égaux entre toutes les contraintes. Il y a contrainte et contrainte. Mmh. Personne n'est obligé de porter une mini-jupe. C'est pas vrai de dire que toutes les femmes ici en France se font enlever les rides. Non, c'est pas vrai. On s'habille comme on veut. On porte des chaussures à talons. Personne ne meurt de pas porter de chaussures à talons. Personne ne meurt de pas se refaire faire le visage. Ni Madame Benbassa ni moi ne correspondons à l'image stéréotypée en effet des femmes. Et on a vécu. Et c'est... Donc il y a cette liberté. Par rapport à ça. Moi, vous dites, je me place du côté de celles qui ont le choix. Bah, c'est votre choix. Moi, je me place du côté de celles qui n'ont pas le choix. Et je trouve qu'il y a des choses à leur dire. Vous citez vos lettres, je pourrais citer tous les tweets, tous les mails que j'ai reçus. Oui, c'est bien, vous nous donnez une perspective, vous êtes de notre côté, etc. Je veux dire, là, chacun peut aligner. C'est pas la question. La question est que, encore une fois, des femmes portent le voile très bien. Elles le portent pour des raisons religieuses, elles le portent pour des raisons politiques. Faut quand même pas non plus être... Pour une affirmation identitaire. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la scène française et plus largement sur la scène européenne? C'est que l'enjeu de l'identité et la pensée du monde en termes d'identité devient essentiel. Devient principal. Je dis, moi, Martine Storti, c'est une catastrophe. On ne peut pas penser en termes d'identité. Il y a des identités, évidemment, mais si on pense le réel en termes d'identité, on est forcément dans l'affrontement. On est forcément dans eux et nous. L'identité contre une autre identité. Or, tous les débats, en effet, depuis des années et de chaque année un peu plus sur la question de la présence de l'islam et de musulmans, et ils sont ici, évidemment, chez eux, se déroule sous le registre de l'identité. Et d'ailleurs, on voit bien que les livres à succès, hélas, que ça soit Zemmour, que ça soit Finkielkraut, que ça soit tous ces gens-là, se pensent le monde en termes d'identité. Et de l'autre côté aussi, les indigènes de la République divise le monde en identité. Les blancs, les non-blancs. Chacun est enfermé dans sa case, essentialisé. Eh bien, moi, je me bats contre ça parce que je veux pouvoir faire droit à la singularité, à la subjectivité et à l'individualité.
Cette problématique de l'identité est importante. Et elle nous amène à la question de notre débat, finalement. Pourquoi cette tendance, cette mode islamique musulmane, appelons-la comme on veut, est-elle finalement si polémique, Esther Benbassa ? Et de quoi est-elle le signe ?
D'abord, je voudrais faire une petite remarque. Ma collègue qui est en face, dont j'apprécie beaucoup les points de vue. Vous savez, les revendications identitaires datent d'il y a une trentaine d'années. Si on est arrivé au mariage pour tous aujourd'hui, c'était une revendication identitaire des personnes lesbiennes et gays. Alors, vous savez, on est dans l'identité. Ça, on ne peut pas le changer. Aujourd'hui, on est dans cette évolution. Il n'y aurait pas eu le mariage pour tous, hein. S'il n'y avait pas eu des revendications identitaires par des associations, des réseaux, etc.
Revendiquer une liberté est une chose, affirmer ce que l'on est une chose, oui, être dans l'affrontement identitaire en est une autre.
Laissez-moi finir. Merci. Écoutez, je ne sais pas pourquoi les femmes qui veulent choisir le voile ne pourraient pas aussi avoir la liberté de disposer de leur corps. Je crois que ça fait partie de nos libertés de femmes de disposer de notre corps. il n'y a pas que les blanches, les femmes minces, les femmes en mini-jupe qui peuvent dire je suis une femme émancipée. Mais je voudrais répondre à votre question aujourd'hui. Et ne pas entrer là dans les détails sur cette question. Écoutez, je crois qu'on est dans la diversion. On est en train de se placer quelque part dans une, disons, dans une mouvance xénophobe qui se développe amplement et sans tabou. Et là, je vous parle en tant que politique. Vous allez au marché, vous voyez des gens qui vous disent « moi, je n'aime pas les Arabes ». Les autres vous disent « moi, je déteste les Juifs ». L'autre vous dit « et moi, j'aime pas les filles voilées ». Etc. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de tabou et tout le monde s'exprime sur ces questions sans être gêné. Et ben moi, ça me gêne, vous comprenez? Et si le gouvernement, nous distraire des vrais problèmes et aussi en raison des élections qui approchent, brouille le discours autour des polémiques de ce genre, moi, ça m'offusque en tant que politique. Et en tant qu'historienne et en tant que juive. Vous savez, ce retour au religieux aujourd'hui est une sorte de réponse, de repli. Par exemple, chez les juifs, le retour au religieux en France, hein, c'est bon. Et une des raisons, c'est aussi la montée de l'antisémitisme. Alors, plus on sera anti-musulman, plus il y aura des filles qui vont porter le voile pour dire non, ouais. Arrêtez. Alors, écoutez, je trouve que là, c'est un jeu dangereux. D'accord. Et ce brouillage des discours me gêne beaucoup. Parce que au moment des votes, les gens ne pourront plus faire la distinction. Alors, attention, politiquement, restons tranquilles sur ces questions.
Donc vous dites un peu le signe d'un affrontement, d'une certaine manière.
Ah oui, mais non, il y a
Martine Storti, je voudrais votre avis sur cette question.
Sur le brouillage du discours, je suis entièrement d'accord, là, sur le brouillage du discours, en effet, mais brouillage de divers côtés. Montée de l'antisémitisme, montée du racisme anti-musulman, anti-arabe, anti-noir, c'est évident, ça fait 30 ans, ça c'est revenu sur la scène à partir du début des années 80. C'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, il faut quand même se souvenir qu'une partie de la droite disait « la gauche c'est pas vraiment la France, c'est l'anti-France hein, », et le retour, 83-84, montée du Front National, retour du Front National sur la scène française. Ce qu'on croyait, que les gens de ma génération vraiment stupéfaits de voir que un parti d'extrême droite. Et puis, on a assisté, ça fait 30 ans qu'on assiste à ça. Mais je ne crois pas qu'on combattra le racisme, l'islamophobie, le racisme anti-noir, l'antisémitisme de la manière dont certains aujourd'hui le combattent, c'est-à-dire qu'en séparant les gens, en séparant les blancs et les non-blancs, en séparant les identités, en faisant de l'affrontement identitaire, en disant le titre est pas le voile, la mini-jupe, après tout, est-ce que c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Les brouillages, ils sont là aussi. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Moi, je dis porter la mini-jupe, avoir des injonctions à une certaine mode, etc., est une chose. Mais si on peut choisir, on choisit. Mais quand on ne peut pas choisir de ne pas porter le voile, je trouve que c'est là qu'il y a le problème. Et si on dit « j'aime pas les Juifs, j'aime pas les... » Oui, bien sûr, tout ce racisme s'étale du matin au soir. Mais comment le combat-on? Est-ce qu'on le combat en divisant le monde entre blancs et non-blancs, par exemple? Je pose la question.
On n'a pas le temps vraiment d'en dire beaucoup plus parce que notre émission arrive à sa fin. Est-ce que, en quelques secondes, le sujet mérite le débat qu'il provoque finalement, ou est-ce qu'il faut tourner la page, laisser à chacune le choix de sa garde-robe en quelques secondes?
Esther Benmassa. Il faut un vrai débat, mais pas des polémiques. Et les ministres n'ont pas à s'occuper de ce genre de questions. Bon. Ils n'ont qu'à rentrer dans leur ministère et laisser faire des investigations aux chercheurs sur ces sujets, parce que ces temps-ci, je trouve que les ministres se mêlent un peu de
alors,
tout.
Alors, message à Laurence.
Non, mais il n'y a pas que les chercheurs. Il y a les militants. Les femmes sans voile d'Aubervilliers qui se battent dans leur quartier parce qu'elles ne peuvent pas aller au café ou parce qu'elles se font traiter de putes parce qu'elles ne portent pas le voile, je trouve pas anormal qu'une ministre les entende et les reçoive.
Allez, on n'en dira pas plus ce soir, il est l'heure de nous séparer. Merci à toutes les deux, Esther Benmassa, Martine Storti, merci également à Florence Ponce et Fabrice Violet qui ont préparé et réalisé cette émission. Vous pourrez retrouver sur notre site internet, la télécharger, la réécouter à votre convenance dans quelques secondes, un nouveau journal sur RFI.